de vous retrouver parce que après 4 mois d'absence, c'est vraiment j'expérimente cette parole de Dieu, hein, qu'il est beau pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Et c'est vrai que quand on ne peut pas le faire, c'est une épreuve en soi. Voilà. Donc merci beaucoup pour tous ceux, toutes celles qui ont prié pour moi. Et on continue de prier parce que ce n'est pas tout à fait fini, mais bon, ça prend la bonne direction. Merci à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fâche. C'est un sujet, c'est vrai, qui est important, qui est malheureusement, qui a été, surtout dans le passé, mais maintenant encore, dans quelques églises, un sujet de division, un sujet de dispute, en tout cas, un sujet d'une actualité brûlante. Et justement parce que c'est un sujet vraiment d'actualité, non seulement dans le monde chrétien, mais surtout dans le monde, hein, en général, j'ai voulu, on va dire, vraiment regarder les choses en profondeur. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Alors, donc, cette étude va peut-être vous paraître un tout petit peu académique, un peu, on va dire, parce qu'il y a pas mal de versets, des choses comme ça. Alors, peut-être que plusieurs d'entre vous vont peut-être trouver ça un peu lourd. Mais c'est fait exprès. Parce que c'est vraiment un sujet qui remue tout le monde, y compris le monde politique. Et voilà, donc soyez patients, soyez indulgents aussi, parce que ça va être peut-être un peu lourd. Et aussi, on va voir. Peut-être qu'on finira, peut-être, enfin, on va voir comment on va progresser. En tout cas, c'est un sujet qui concerne surtout les sœurs. Alors, on va couper vos cheveux en 4. Et surtout, ne m'attendez pas à la fin pour la fin de l'étude pour me faire quelques remontrances. Ne tapez pas trop fort quand même, si encore on va l'espace. Voilà, donc c'est un sujet qui concerne la tenue ou les rôles plutôt, d'une manière générale, de l'homme et de la femme dans l'Église. Et aussi la deuxième partie qui concerne le repas du Seigneur. Alors la deuxième partie est plus classique, on va dire, le repas du Seigneur, parce que tous les dimanches, ou presque, nous réitérons les choses que nous allons voir. Donc ça sera peut-être un peu plus rapide que la première partie où j'ai voulu vraiment qu'on puisse s'attarder un peu parce que c'est très très à l'actualité. Voilà, donc armons-nous de patience et de persévérance. Hein. C'est par la foi et par la persévérance. Voilà. Donc voilà, je vais vous distribuer. Alors, c'est plus un résumé qu'une série de questions comme d'habitude sur la première partie. La deuxième partie, qui est un peu plus classique, c'est plus une série de questions. Donc, dans le jeu, vous voyez que c'est assez fourni. Il y a pas mal de choses. Il y a peut-être certainement... Pourquoi ce sujet est-il controversé? Simplement parce qu'il y a un premier contexte qui est le contexte socioculturel de Corinthe, la ville elle-même, et aussi de l'église de Corinthe. Et rien qu'en prononçant le mot Corinthe, c'est en soi déjà un sujet de controverse. Parce que comme on l'a vu, enfin si vous l'avez vu à la première étude, la situation de Corinthe est une situation particulière. tellement particulière que vraiment on se demande si des sujets qui ont été abordés par l'apôtre Paul on devrait les rattacher à la ville de Corinthe et donc quelque chose de local, ou alors c'est un sujet qui concerne l'Église en général, dans tous les temps et dans tous les lieux. Et c'est ça la difficulté, c'est que vraiment, on ne connaît pas avec exactitude ce que l'apôtre Paul a voulu faire passer comme message, ce que Dieu a voulu faire passer comme message, plus particulièrement concernant le sujet donc, du voile que les femmes, les non-sœurs, portaient ou doivent porter, selon certains, doivent continuer de porter lorsque l'Église se réunit. Alors, donc, il y a ce contexte déjà socio-culturel qui est assez lourd. Et le chapitre 11 est rattaché au chapitre 10, qui ont d'ailleurs, tous les deux chapitres ont la même structure et à peu près les mêmes contenus. Et on va voir que l'un et l'autre des deux chapitres traitent de ce que c'était que la liberté des enfants de Dieu en Jésus-Christ, ce que les Corinthiens ont fait de cette liberté-là, un mauvais usage de la liberté des enfants de Dieu en Jésus-Christ, hein, comme toujours au jour d'aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens font un mauvais usage de leur liberté en Christ. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point concerne surtout le repas du Seigneur, et où là aussi, à relier avec l'idolâtrie, qu'on a vu donc la dernière fois hein, avec notre frère Stéphane, l'idolâtrie qui régnait dans l'église de Corinthe. Alors, au premier siècle, enfin dans les tout premiers siècles de notre ère hein, après Jésus-Christ, c'était la coutume pour les femmes juives, les femmes de disons, qui était respectable. Il était respectable pour une femme d'avoir des cheveux en ordre, des cheveux bien, disons, non décoiffés, des femmes non décoiffées. Et la culture juive et la culture gréco-romaine exigeaient, à l'époque, que la femme porte sur la tête quelque chose, se couvre en tout cas la tête. C'était vraiment pour des raisons, certes religieuses, hein, on va le voir tout à l'heure, mais aussi parce que c'était la coutume. Il était impensable pour une femme digne de ce nom, en tout cas, d'avoir la tête découverte ou les cheveux décoiffés. Donc, on peut dire que localement, et à cette époque-là, c'était une coutume. Comme au jour d'aujourd'hui, chez certains peuples, quand on va par exemple en Afrique, en tout cas dans mon pays, les femmes, en général, en tout cas de mon époque, portaient quelque chose sur la tête, non pas pour des raisons religieuses, mais parce que c'était la coutume. Il était, enfin moi, ma mère, etc., portaient quelque chose sur la tête parce que ça faisait beau, parce que c'est comme ça qu'une femme digne de ce nom devrait se comporter. Alors, le problème, c'est que lorsque l'église de Corinthe a été constituée, les femmes, les sœurs donc de l'église, lorsque l'église se réunissait, ben, les femmes donc qui priaient, ou les femmes qui prophétisaient, on va voir ce que ça veut dire, hein, étaient obligées de porter quelque chose sur la tête. Et pour quelles raisons? Et on va voir justement quelles sont les raisons qui faisaient que les femmes devaient porter quelque chose sur la tête. Elles devaient avoir une couverture, entre guillemets, sur la tête. Elles ne devaient pas avoir les cheveux libres, elles ne devaient pas avoir la tête non voilée, parce que c'était synonyme, c'était un signal qu'on envoyait. La tête libre, les cheveux libres, décoiffés, étaient un symbole de la femme débauchée. la femme de mauvaise vie. Et d'ailleurs, les cultes païens à l'époque, les femmes qui sont situées dans ces cultes païens, les prêtresses païennes, pour se démarquer, pour affirmer leur liberté et leur indépendance, avaient justement la tête décoiffée, les cheveux en désordre, et même pire, certaines allaient jusqu'à se raser la tête. C'était un symbole de le paganisme, mais surtout parce que dans le culte païen, le culte de la déesse Aphrodite, il fallait les femmes qui pratiquaient la prostitution sacrée, on appelait ça comme ça, la prostitution sacrée, se raser la tête. Donc leur tête était rasée. Et donc une femme qui avait la tête rasée, c'était vraiment synonyme de la débauche la plus brutale. Et donc les sœurs qui venaient en Christ, alors, est-ce que, il y a beaucoup de questions, on va voir, c'est pas tout à fait simple. Donc les choses qu'on va voir vont plutôt se terminer par des points d'interrogation. Est-ce que les sœurs, à l'époque, pour affirmer leur liberté ou leur égalité vis-à-vis des hommes, parce qu'en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Et le Seigneur lui-même, d'ailleurs, a dit en Matthieu 22, 30, lorsque vous vous rappelez, les Sadducéens étaient venus le voir pour le piéger un tout petit peu sur cette histoire à dormir debout qu'il lui a raconté. Une femme avait un mari, la femme est morte, à qui la femme serait-elle, de qui serait-elle le mari, puisqu'elle a eu 10 maris successivement selon la loi de Moïse. Ouais, une histoire complètement à dormir debout. Et là, le Seigneur Jésus a donné une réponse en Matthieu 22, 30. Si vous pouvez lire Matthieu 22, 30. Si quelqu'un peut lire Matthieu 22, 30.
Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel.
Voilà. Est-ce que nos sœurs ont pris ce verset pour dire nous sommes égaux, il n'y a pas de raison que nous portions quelque chose sur la tête alors que les hommes, eux, n'en portent pas. Et que pour affirmer leur liberté en Jésus-Christ, ce qui est un mauvais usage, on va le voir, un mauvais usage de leur liberté en Christ, est-ce qu'ils se sont dit, voilà, nous, on est libres, on est égaux, et donc, nous refusons, nous ne voulons pas porter un signe qui nous distingue. Mais justement, c'est l'église de Corinthe. Et l'église de Corinthe est reconnue, comme on l'a vu tout à l'heure, pour son idolâtrie. Est-ce que là, il n'y avait pas un danger de confusion, vu le contexte de l'époque? Est-ce qu'il n'y avait pas un danger de confusion pour quelqu'un qui rentrait dans l'église, qui aurait vu ces femmes décoiffées ou sans porter quelque chose sur la tête, une confusion avec ce qui se pratiquait dans le culte païen? En d'autres termes, est-ce que nos sœurs, si vraiment c'est ça la raison, ne faisaient pas un mauvais usage de leur liberté en Christ? Alors, donc, je résume un tout petit peu. Est-ce que c'est le contexte local de Corinthe qui exigeait que l'apôtre Paul écrive cette lettre-là pour remettre les choses en ordre? Et vous avez vu dans les études précédentes que c'était exactement le cas, parce que les frères et sœurs se disputaient, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollo, etc. Donc l'apôtre Paul se devait de remettre les choses en ordre. Et pour la question qui nous occupe ce soir, est-ce que c'est pareil? Est-ce que là aussi, l'apôtre Paul se devait de mettre de l'ordre? Ou alors c'est une question beaucoup plus profonde qui va au-delà de l'église de Corinthe? Voilà. Donc les choses ne sont pas aussi faciles qu'on le croit. Lorsque nous prenons ce chapitre 11 et qu'on le lit d'une manière rapide, on se rend compte que c'est très clair. Il n'y a justement pas le sujet de couper les cheveux en quatre, c'est très très clair. Les femmes doivent faire ceci, doivent faire cela, donc on le fait. Effectivement, si c'est vraiment normatif, alors le mot normatif, je vais l'utiliser souvent, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire quelque chose de biblique qui s'applique en tout temps et en tout lieu à tous les chrétiens. Et donc, comme si c'est vraiment quelque chose de biblique, nous devons l'appliquer, parce que la Bible est la parole de Dieu quand même. Nous ne pouvons pas ne pas obéir à la parole de Dieu. Si vraiment c'est la parole de Dieu, si c'est normatif, nos frères et sœurs, nos sœurs, je m'excuse, mais vous deviez donc vous plier à ce que dit l'apôtre Paul. Mais la difficulté est de savoir justement, est-ce que c'est normatif? Est-ce que c'est valable en tout temps, en tout lieu et en toute époque? Lorsqu'on lit ce chapitre d'une manière rapide, on dit oui, c'est normatif. Mais alors là, on prend donc dans les feuilles que je vous ai données, on est au petit B là. Nous allons voir qu'il y a des choses difficiles à comprendre. Ce n'est pas aussi simple que cela paraît d'entrée de jeu. Les choses difficiles à comprendre ont été énoncées dans la deuxième épître de Pierre. Si on prend dans 2 Pierre chapitre 3, les versets 15 à 16, si quelqu'un peut lire 2 Pierre 3, 15 à 16.
C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine.
Voilà, donc il s'agit de l'apôtre Paul. Et Pierre lui rend témoignage que l'apôtre Paul a écrit des choses difficile à comprendre. Et ici, je vous assure qu'on est devant des choses difficiles à comprendre. J'espère qu'en sortant d'ici, tout le monde sera convaincu que ce n'était pas si facile que ça. D'abord, on va faire maintenant une étude verset par verset pour soulever la difficulté de ce que écrit l'apôtre Paul. D'abord, le verset 1. Je ne sais pas comment on procède, est-ce qu'on lit d'abord tout et puis après on prend verset par verset? Vous n'avez pas le contexte général en tête, donc on va tout lire d'abord. Est-ce qu'on peut lire les 16 premiers versets, donc du chapitre 1, et après on reviendra verset par verset? Les 16 premiers versets. Quelqu'un peut lire?
Suivez donc mon exemple. Je lis en version Semeur.
Oui.
Suivez donc mon exemple, comme moi, de mon côté, je suis celui de Christ. Je vous félicite de vous souvenir de moi en toute occasion et de maintenir fidèlement les traditions que je vous ai transmises. Je voudrais cependant attirer votre attention sur un point. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Le chef de Christ, c'est Dieu. Si donc un homme prie ou prophétise la tête couverte, il outrage son chef. Mais si une femme prie ou prophétise la tête non couverte, elle outrage son chef à elle. C'est comme si elle était rasée. Si donc une femme ne se couvre pas la tête, pourquoi alors ne se fait-elle pas aussi tondre les cheveux? Mais s'il est honteux pour une femme d'être tondue ou rasée, qu'elle se couvre donc la tête. L'homme ne doit pas avoir la tête couverte puisqu'il est l'image de Dieu et reflète sa gloire. La femme, elle, est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Voilà pourquoi la femme doit porter sur la tête un signe d'autorité à cause des anges. Toutefois, dans l'ordre établi par le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme, et l'homme n'existe pas sans la femme. Car si la femme a été tirée de l'homme, celui-ci à son tour naît de la femme, et finalement tous deux doivent leur vie à Dieu. Jugez vous-même de cela. Est-il convenable pour une femme de prier Dieu la tête découverte? Ne paraît-il pas naturel à tout le monde que c'est une indignité pour un homme de porter des cheveux longs, mais qu'une longue chevelure fait honneur à la femme, car la chevelure lui a été donnée pour lui servir de voile? Si quelqu'un s'obstine à contester, nous lui répondons que ce qu'il propose n'est ni notre pratique, ni celle des églises de Dieu.
Voilà, alors l'apôtre Paul ici commence à dire, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Alors, on pourrait se dire, oulala, mais quel orgueil. L'apôtre Paul fait montre d'un orgueil. Non, c'est pas tout à fait de l'orgueil, puisque lui-même, il précise, comme je le suis moi-même de Christ. En fait, l'apôtre Paul dit exactement, c'est que moi, je suis un poteau indicateur. Je vous montre la direction de Christ. Mais un poteau indicateur et montre seulement la direction. Si vous voyez par exemple un poteau qui montre la direction de Marseille, ça ne veut pas dire que quand vous voyez ce poteau, vous êtes à Marseille. Non, c'est deux choses différentes. Donc, Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Et ceci se rattache à la fin du chapitre 10, puisque au chapitre 10, Paul dit, je ne cherche pas mes avantages personnels. Chez les Grecs, je me comporte comme les Grecs. Chez les Juifs, je me comporte comme les Juifs. Donc, en fait, il nous dit exactement, ne regardez pas à vos avantages personnels, mais plutôt aux avantages du plus grand nombre. Donc, ne soyez pas égocentriques. Ensuite, au verset 2, il va dire quelque chose qui est étonnant. Hein. Si quelqu'un peut lire le verset 2.
Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données.
Très étrange. Surtout lorsqu'il s'agit de la première épître aux Corinthiens. Comment se fait-il que Paul dit « Je vous loue de ce que vous souvenez de moi à tous égards et que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. » Mais est-ce que l'apôtre ne se contredit pas ici? Regardez plutôt les versets 17 à 22. Si quelqu'un peut lire, toujours au chapitre 11, hein, les versets 17 à 22.
« En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. » Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc, jusqu'au verset... Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'église de Dieu, et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirais-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point.
Pourquoi l'apôtre aussi se contredit? C'est quand même incroyable. Est-ce qu'il souffre le chaud et le froid? C'est quand même étonnant de la part de l'apôtre Paul, qui est quand même très très exact hein, dans tout ce qu'il dit. Hein. Il ne dit pas quelque chose de son contraire. Alors, en fait, ici, il y a déjà, d'entrée de jeu, un problème de traduction. Et on va voir tout au long de ce 11e chapitre hein, qu'il y a des problèmes de traduction. Est-ce que quelqu'un possède la version de Jérusalem? Alors, je vous lis, hein, puisque j'ai recopié la version de Jérusalem. Elle dit, « Je vous félicite de ce qu'en toutes choses, vous vous souvenez de moi et gardez les traditions comme je vous les ai transmises. » Les traditions. Ce n'est pas les instructions ici, mais c'est les traditions. Ah, ça change quand même pas mal de choses. Il s'agit de garder des traditions. Or, nous savons que les traditions peuvent être au moins de trois types. Les traditions, il y a des traditions. Les traditions, c'est ce qu'on a l'habitude de pratiquer. On le pratique, on va dire, régulièrement. Ça finit par devenir des habitudes et les habitudes deviennent des traditions. Alors, si c'est ça, si c'est vraiment ça, il faut faire attention parce que les traditions peuvent être... Il y a des traditions bibliques et universelles, c'est-à-dire que des choses que les églises pratiquent en tout temps et en tout lieu et qui sont parfaitement bibliques. Par exemple, le baptême. Le baptême, on le pratique. Toutes les églises, en tout cas dignes de ce nom, le pratiquent. C'est une coutume, une habitude, mais en fait, c'est plus qu'une habitude. C'est un ordre du Seigneur. Et donc, cette tradition est acceptable, elle est bonne et elle est normative. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire sans, on ne peut pas passer outre. C'est vrai que le Seigneur a dit... Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, cette tradition, en parlant du baptême, par exemple, est une tradition biblique, universelle et normative. Mais il y a des traditions qui sont bibliques, c'est-à-dire qui ne contredisent pas la Bible, mais qui sont locales, qui sont valables que dans l'Église ou dans les quelques églises qui sont concernées. Par exemple, nous, on se réunit le dimanche matin à 10h30. Ah, ce n'est pas une mauvaise chose, ça ne contredit pas la parole de Dieu. C'est une habitude, c'est une tradition, mais elle n'est pas normative. C'est-à-dire que vous avez des églises qui se réunissent peut-être à 11h, d'autres à 8h, d'autres qui se réunissent peut-être le samedi ou le vendredi, etc. Donc, notre tradition à nous, ici, à l'église... 316 Boulevard de la Paix, elle n'est pas normative. Elle est bonne en soi, elle ne contredit pas la parole de Dieu. Et vous avez aussi des traditions qui ne sont pas bibliques. Celles-là, alors là, il faut les rejeter. Elles ne sont ni acceptables, ni normatives. Par exemple, la prière pour les morts. Vous savez qu'il y a des églises qui font des cultes pour prier pour les morts, pour ceux qui sont décédés, pour que Dieu ait pitié d'eux et puisse les accepter dans son paradis. Ce sont des traditions qui sont mauvaises parce qu'elles ne sont pas bibliques. Vous voyez ? Alors, la tradition dont parle l'apôtre Paul ici, est-ce qu'elle fait partie du premier groupe, c'est-à-dire normative ? Est-ce qu'elle fait partie du second groupe, c'est-à-dire local ? Local à l'église de Corinthe, ou plutôt du troisième groupe. Bon, tous les commentateurs, toutes les églises sont d'accord, elle ne fait pas partie du troisième groupe. C'est quand même la parole de Dieu, c'est l'apôtre Paul. Et donc, ça ne contredit pas la Bible. Mais en revanche, et c'est là où les églises se sont divisées, c'est que beaucoup d'églises ont vraiment... Alors là, il faut que je sois vraiment... Comment dire, que je me revête de beaucoup d'humilité, parce que ce sont des grands hommes de Dieu, des hommes de Dieu très profonds, qui ont cru ici que l'apôtre Paul parlait des traditions qui sont normatives. C'est-à-dire que toutes les églises devraient suivre à la lettre ce que dit l'apôtre Paul ici. Et beaucoup d'églises suivent à la lettre ce que dit l'apôtre Paul ici. C'est-à-dire que vous verrez des églises, quand vous rentrez, si vous êtes une femme et que vous n'avez rien sur la tête, alors ou bien vous acceptez ce qu'on vous donne, c'est-à-dire le foulard qu'on vous tend, ou alors vous ne rentrez pas dans l'église. Voilà. Alors, et dans l'autre camp, c'est-à-dire le camp de ceux qui disent « Non, c'est biblique, mais c'est local. » Là aussi, il y a des grands hommes de Dieu. Des hommes vraiment qui ont une piété très profonde et devant laquelle vraiment, enfin, personnellement, je n'arrive même pas à la cheville. Alors, comment se fait-il que des grands hommes de Dieu ont eu des positions aussi tranchées sur la question du port du voile, entre guillemets, de la femme? Ben, on va voir que c'est pas si simple que ça. Alors, nous ici, à l'église 316 Boulevard de la Paix, on se situerait plutôt dans la deuxième catégorie. Hein, vous avez remarqué vous-même. Hein, on serait plutôt de ceux qui pensent que c'est biblique, ça ne contredit pas la parole de Dieu, mais que franchement, vu vu le contexte local de l'église de Corinthe, que c'est vraiment très typique. Et vu les problèmes que on va rencontrer au fur et à mesure de la lecture, qu'on va voir que c'est pas si simple que ça, que vraiment, non, on peut pas imaginer que ce soit normatif. Mais je dis d'entrée de jeu que franchement, et je pense que tous ici sont d'accord là-dessus, que s'il y avait des sœurs pour qui ceci est vraiment tellement important que c'est vraiment normatif, j'aime autant vous dire d'entrée de jeu que c'est... Enfin, moi, personnellement, et je pense que pour beaucoup, ça ne pose aucun problème. Vous pouvez rester dans notre église, la tête couverte, ça ne pose aucun problème. Nous allons voir pourquoi ça ne pose pas de problème. Voilà. Ensuite, on prend le verset 3. Est-ce que quelqu'un peut lire le verset 3?
Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ.
Aïe, 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 aïe. Là, ça fait grincer un peu les dents. Surtout maintenant, de notre époque. Alors, d'abord, il y a un problème de traduction. Un problème de traduction. Enfin, de compréhension de ce qui est écrit plutôt. De compréhension de ce qui est écrit. Que veut dire le mot chef? Alors, le mot chef, c'est le mot, ça donne en grec, c'est képhalé, qui a donné le mot céphalé, c'est-à-dire tête. Donc, chaque fois que vous rencontrez ici le mot chef, vous pouvez le remplacer par tête. Tête, la tête. Et la tête suggère une notion de soumission. C'est vrai qu'ici, il y a une notion de soumission. Mais pas, et loin de là, une notion d'autoritarisme. C'est-à-dire une soumission obligée, à laquelle vous ne pouvez pas vous soustraire. C'est comme ça, un point c'est tout, et vous exécutez. C'est plutôt une soumission librement consentie. Et une soumission qui vient du cœur. Et cette soumission librement consentie, nous la retrouvons dans l'image que l'apôtre Paul nous donne ici, en disant que Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Parce que dans la Trinité, la soumission est une vertu. Est-ce que vous êtes convaincu que la soumission est une vertu? C'est très important. Parce que si vous n'êtes pas convaincu que la soumission est une vertu, alors Jésus-Christ, vous ne pouvez pas le considérer comme étant le Fils de Dieu. Parce que Jésus-Christ, Fils de Dieu, est soumis à son Père de toute éternité. Et tout ce qui est, vertu, toute notion, toute vertu, toute grâce parfaite descend de Dieu, c'est divin. Donc si la soumission est une vertu, elle est divine. C'est-à-dire que c'est bien, c'est bon. C'est bon de se soumettre. Il n'y a aucune notion de honte, ni d'infériorité, ni de quoi que ce soit. La soumission, c'est quelque chose de bon. Est-ce que nous en sommes convaincus? Est-ce que mon cœur est convaincu que me soumettre, c'est une bonne chose? Dieu est le chef de Christ. Dans la divinité, nous avons une parfaite égalité. Le Père et le Fils sont parfaitement égaux. Mais il y a un ordre. Le Père d'abord, ensuite le Fils. C'est un ordre qui est librement consenti. C'est un ordre qui est bon et qui est divin. Regardez par exemple Jean chapitre 5, verset 17 à 23. Est-ce que quelqu'un peut lire Jean 5, 17 à 23?
Et Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu.
Alors, vous pouvez s'arrêter là. Et quelqu'un d'autre peut lire Philippiens 2, 5, 11.
Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix.
Voilà, on pourrait s'arrêter là. Vous vous rendez compte, Jésus-Christ n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Jésus-Christ est véritablement l'Éternel des armées. C'est incroyable. Mais comment Jésus-Christ peut-il admettre de se soumettre à son Père? Et tout simplement parce que la soumission est une vertu divine. Elle a été galvaudée par le péché. Aujourd'hui, quand on parle de soumission, c'est vraiment le patron qui tape sur l'ouvrier, quoi. En fait, c'est ça qu'on voit. Mais pas du tout, frères et sœurs, mais pas du tout. Pas du tout. Pourquoi dans nos églises, parfois, il y a de l'insoumission? Pourquoi d'où vient cet orgueil qui refuse de se soumettre? Pourquoi je ne me soumets pas à mes anciens? Pourquoi mon corps refuse de me soumettre à mes frères et sœurs? Pourquoi? C'est à cause de l'orgueil. Parce que mon cœur est orgueilleux. C'est-à-dire que c'est le péché qui a galvaudé la notion de soumission. C'est bon d'être soumis. Et là, mon cœur doit en être absolument convaincu. Alors, si on transpose ceci dans les rapports entre l'homme et la femme, est-ce que, je m'adresse à mes sœurs, est-ce que ça vous frustre quelque part, ça choque votre orgueil que de dire que l'homme est le chef, entre guillemets, la tête de la femme? Est-ce que vous êtes choqué? Alors, si vous êtes choqué, acceptez aussi que Jésus-Christ devrait être choqué. Si vous êtes choqué, vous choquez Jésus-Christ. Non, frère et soeur, il n'y a aucune notion d'infériorité. Alors, quelqu'un disait, oui, si l'homme est la tête de la femme, c'est une femme, hein? C'est une femme qui disait ça. Si mon mari est ma tête, alors moi je suis le cou. C'est-à-dire que la tête se tourne là où je lui dis de se tourner. Voilà. Bon, c'est vrai que ça pourrait se comprendre.
Oui, c'est le cerveau qui commande le cou.
Voilà.
Jusqu'à preuve du contraire.
Alors, Alors, mes sœurs, il n'y a aucune notion d'infériorité. Surtout, ne vous sentez pas inférieur à l'homme. Pourquoi? Regardez Genèse 1, 27. Est-ce que quelqu'un peut lire Genèse 1, 27?
Alors, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme.
Voilà, tous les deux, homme et femme, ont été créés à l'image de Dieu. Donc, égalité parfaite. Cependant, il est dit que la femme est... Enfin, Dieu a voulu que la femme crée une femme qui soit une aide de l'homme. Alors là aussi... Il y a un problème de compréhension du mot « aide ». Quand nous lisons le mot « aide », tout de suite, il y a la notion d'infériorité qui vient. En réalité, il n'y a aucune notion d'infériorité. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut lire le psaume 33, 20? Le psaume 33, 20.
Nous espérons en l'Éternel, notre secours et notre bouclier, c'est lui.
Et le psaume 75.
Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit Dieu. 70, c'est ça?
C'est ça?
75.
Ah.
C'est 6 peut-être.
Oui.
Ô Dieu, viens vite à mon secours, tu es mon aide et mon libérateur. Voilà,
c'est ça, c'est ça. Alors, vous pouvez souligner, le mot aide ou le mot secours, c'est exactement le même mot ici. Le mot aide. C'est exactement le même mot qui est utilisé quand il est dit que Dieu créa une aide pour l'homme. C'est le même mot. Dieu est appelé notre aide. Est-ce qu'on pourrait parler de Dieu qui nous est inférieur? Pas du tout. Bien qu'il soit notre aide, Dieu n'est pas inférieur à l'homme. Donc, bien que la femme soit l'aide de l'homme, on ne peut pas dire qu'elle est inférieure à l'homme. Ensuite, il y en a qui ont dit oui, mais c'est une aide, donc la femme est moins capable, elle est moins intelligente que l'homme. Etc., etc. Mais pas du tout. Pas du tout. Simplement que la femme doit accepter un rôle que Dieu lui donne. Parce que dans le mot aide, il y a la notion de rôle. Dans le mot tête, il y a la notion de rôle. Ce n'est pas une notion de jugement de l'un par rapport à l'autre, mais une notion d'ordre. Tout comme dans la divinité, il n'y a pas une relation de jugement du Fils par rapport au Père, mais une notion de priorité, une notion d'ordre. Dans l'ordre des choses, c'est le Père et le Fils. Dans l'ordre des choses, c'est l'homme puis la femme. Et une autre raison pour laquelle c'est comme ça, pour laquelle l'homme est la tête par rapport à la femme, c'est que l'homme a été créé le premier. Regardez 1 Timothée 2, 13. Est-ce que quelqu'un peut lire 1 Timothée 2, 13?
Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression.
Alors l'homme a été créé avant la femme. Qu'est-ce que ça suggère comme notion? L'homme a été créé avant la femme. Donc, il y a ici un droit d'aînesse. Il y a un droit d'aînesse. Et vous savez que dans l'Ancien Testament, le premier-né, donc celui qui avait le droit d'aînesse, il avait la responsabilité de gérer la famille. Et il recevait une double portion de l'héritage. Est-ce que c'est parce qu'il était plus intelligent que les autres? Est-ce que parce qu'il était plus spirituel que les autres? Mais pas du tout. D'ailleurs, quand vous regardez les fils de Jacob, Ruben n'était pas celui à qui on aurait donné l'intelligence suprême. Il était plutôt un drôle de type, hein, Ruben. Donc ici, il n'y a ni notion d'intelligence, ni notion de capacité, ni notion de force, ni aucune notion de supériorité ici. C'est simplement un droit ténèbre. Ensuite, une deuxième raison, c'est que la femme a été créée à cause de l'homme. À cause de l'homme. 1 Corinthiens 11, 8 à 9. Hein. Est-ce que quelqu'un peut lire?
En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme.
À cause de l'homme. Donc, il y a ici, il y a aucune notion d'infériorité, mais tout simplement une notion de rôle. Le rôle de la femme et le rôle de l'homme sont totalement différents. C'est deux rôles totalement différents. Et il y a une troisième raison, hein, qui est tout aussi valable, que nous donne l'apôtre Paul aussi, c'est que Dieu, lors de la chute dans le jardin d'Éden, a prononcé un jugement contre la femme. Parce que c'est la femme qui avait séduit, qui a été séduite. Hein. Nous nous plaisons à dire que la femme a été séduite et l'homme a suivi sa femme. Voilà. Donc la femme a été séduite et Dieu a prononcé un jugement contre la femme. 1 Timothée 2, 14 et 15. Quelqu'un peut... 1 Timothée 2, 14 à 15.
Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté.
Voilà, et quelqu'un d'autre peut lire Genèse 3, 16.
Dieu dit à la femme, je compterai la souffrance de tes grossesses, c'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde, tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui dominera sur toi.
Alors voilà la pomme de dispute de l'histoire, c'est le mot dominer. Alors il a été très très mal compris, on a cru que dominer voulait dire être le patriarche absolu, mais pas du tout. Est-ce que quelqu'un peut lire Genèse 1, 18? Genèse 1, 18.
Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon.
Voilà. Présider. C'est exactement, pour ceux qui ont la Bible avec des numéros strong, c'est exactement le même mot. Le mot présider et le mot dominer, c'est pareil. Donc Dieu, en fait, ne dit pas dans son jugement qui est que l'homme devait être le monarque absolu. Il dit simplement que l'homme devait présider à la famille. Ça change beaucoup de choses. Hein? Donc, voilà, rien que par ces notions, ces compréhensions qui ont été déformées par le péché, on a du mal un tout petit peu à comprendre ce que l'apôtre Paul voulait dire. Est-ce que c'était universel ou est-ce que c'était local? Est-ce que c'est nous qui comprenons mal son langage? Est-ce que le péché a tellement déformé les choses que nous ne comprenons plus rien au langage de l'apôtre Paul? Tout ça, ce sont des points d'interrogation. Ensuite, on progresse verset 4, donc de 1 Corinthiens 11, verset 4.
1 Corinthiens 11, 4. Tout homme qui prie ou prophétise la tête couverte déshonore son chef.
Alors ici, nous avons une précision. Tout homme qui prie ou qui prophétise, ça va revenir très très souvent. En fait, tout ce qui est dit ici concerne la femme, la tenue de la femme dans l'église, lors des réunions, et uniquement lorsque la femme prie ou prophétise. Alors, prier, on sait ce que c'est. Prophétiser, il y a eu aussi, là aussi, une certaine confusion. Le mot prophétiser, dans le Nouveau Testament, surtout, ne veut pas dire... il ne faut pas le comprendre comme faire des prédictions, pas du tout. Le mot prophétiser est expliqué dans 1 Corinthiens 14:3. Est-ce que quelqu'un peut lire 1 Corinthiens 14:3 ?
Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console.
Voilà. Donc, prophétiser, c'est édifier, exhorter, consoler. Voilà. La femme qui, ou l'homme qui prophétise. C'est ça. Alors, ici l'apôtre Paul nous dit, tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte. La tête couverte. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire par qui prie ou qui prophétise la tête couverte? Couverte comment? Est-ce qu'il parle d'un objet, d'un linge, d'un vêtement qui couvrirait la tête? Est-ce qu'il parle d'un voile? Ou est-ce qu'il fait allusion quelque part aux cheveux, comme il le dira plus loin au verset 16? Est-ce qu'il parle ici des cheveux longs? Ou plutôt d'un châle, d'une couverture, d'un foulard? De quoi parle-t-il ici? C'est aussi une difficulté. C'est une difficulté. En tout cas, quoi qu'il en soit, le mot chef, comme on l'a vu, veut dire tête, qu'il fallait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme, contrairement à la femme, doit, lorsqu'il prie ou lorsqu'il prophétise, sa tête ne doit pas être couverte parce que sinon il déshonore sa tête. Alors là, c'est un tout petit peu flou. Mais la tête de l'homme, c'est Christ. C'est Christ. On vient de le voir. Donc, si je relis, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête non couverte déshonore Christ. Ah là, ça change beaucoup de choses. Ça change énormément de choses. Ça enlève en tout cas une certaine confusion parce que justement, l'apôtre Paul ici, hein, et on va le voir un peu plus loin, il veut enlever toute notion de confusion. Toute notion de confusion. Il ne faut pas que dans l'Église, on puisse confondre les genres masculins et les genres féminins. Comme l'Église de Corinthe était réputée pour justement pour son désordre, pour son idolâtrie, quelqu'un de l'extérieur, quand il rentrait dans l'Église, devait faire la différence entre un culte païen et un culte chrétien. C'est-à-dire que ce qui se passait dans les cultes païens ne devait pas, mais pas du tout se retrouver dans un culte chrétien. C'était hors de question pour l'apôtre Paul d'avoir les mêmes valeurs spirituelles dans les cultes païens comme dans les cultes chrétiens. C'était absolument interdit, impossible. Et donc, pour faire la différence entre les deux, les femmes devaient rester couvertes. Parce que dans les cultes païens, le paganisme, le degré de paganisme était mesuré par le degré de sa révolte contre ce qu'a imposé la société, c'est-à-dire porter quelque chose sur la tête. Une femme libérée, entre guillemets, était celle qui n'avait rien sur la tête, mieux qui avait les cheveux complètement en désordre, mieux qui était rasée. Oui. Mais ça, dans l'Église, hors de question de retrouver ça. Et donc l'apôtre Paul nous dit, surtout dans l'Église, qu'il n'y a ni confusion, ni fusion. Alors ce mot va revenir très très souvent. Ni fusion, ni confusion de genre. Il ne faut pas que les deux genres puissent fusionner, c'est-à-dire que dans un seul être, qu'il y ait à la fois le genre masculin et le genre féminin, hors de question. Et il ne faut pas aussi qu'ils puissent être confondus, qu'on puisse vraiment les distinguer, voir que là, oui, il s'agit d'une femme, là, oui, il s'agit d'un homme. Voilà ce que l'apôtre veut nous faire comprendre ici. L'accoutrement ou les insignes peuvent induire en erreur. Alors, justement, puisqu'on parle d'accoutrement et d'insignes, est-ce que nous savons, nous réalisons que ce sont des notions purement locales? Par exemple, nous, les hommes ne portent pas de jupe, mais les Écossais, ils ont porté une jupe. Les hommes ne portent pas de jupe. Mais dans certains pays asiatiques et aussi en Afrique, on porte un peu de jupe. En fait, nous sommes en présence des valeurs locales. C'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles, sincèrement, il s'agit ici d'une épître, enfin d'un chapitre local à l'église de Corinthe. L'accoutrement. Mais, quelle que soit la culture, que ce soit chez les Écossais, les Français, les Africains, tout ce que vous voulez, il y a néanmoins une distinction entre l'homme et la femme. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas si évident que ça. Hein. C'est pas bon, je prends, c'est écrit comme ça et donc j'applique. C'est pas si évident que ça. Mais continuons. Verset 5, est-ce que quelqu'un peut lire le verset 5? On va avancer parce que l'heure avance. Oulala.
Rappelé par la vie prochaine.
Oui, c'est vrai, oui. Mais sincèrement, je me suis dit, mais comment je vais aborder ces choses-là? Est-ce qu'il faut que je... Franchement, vous me voyez un peu embêté, hein, parce que est-ce qu'il faut aller en profondeur ou est-ce que je prends trop de temps? Je ne sais pas quoi faire. Mais bon, voilà. Est-ce que quelqu'un peut lire le verset 5? De 5 à 6.
Toute femme, en revanche, qui prie ou qui prophétise la tête non couverte, déshonore son chef à elle. En effet, c'est exactement comme si elle était rasée. Si une femme n'a pas la tête couverte, qu'elle se tonde aussi les cheveux, et s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux tondus ou d'être rasée, qu'elle se couvre donc la tête.
Voilà. Alors ici, il y a aussi, encore une fois, des choses difficiles à comprendre. Pourquoi? Mais parce que c'est mal traduit déjà. Le mot voile dans tout ce chapitre 11 ne se trouve nulle part, sauf au verset 15, quand il dit que la chevelure lui a été donnée comme voile. C'est le seul endroit où vous trouvez le mot voile. Or, dans notre traduction, il y a voile partout. Donc il y a un problème déjà de traduction. Alors, pour saisir ce que l'apôtre Paul veut dire ici, il y a trois interprétations qui ont été proposées. La première interprétation, c'est que le mot voile, le mot voilé, le mot etc., en fait, vous pouvez remplacer par couvert ou couverture. De telle sorte qu'on pourrait lire toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non couverte, déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas couverte, n'a pas la tête couverte, qu'elle se coupe aussi les cheveux, etc. Donc, la couverture dont Paul parle ici, en quoi consiste-t-elle? Est-ce que c'est un châle? Est-ce que c'est un foulard? Est-ce qu'il s'agit des cheveux longs? Alors, s'il s'agit des cheveux longs, alors là, il y a un problème. Parce que sinon, si on, le verset 6 deviendrait, si une femme n'a pas les cheveux longs, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Ça ne veut rien dire. Si une femme, si une femme n'a pas les cheveux longs, qu'elle se les coupe. Oh, c'est un non-sens. Et puis sur cette histoire de longueur de cheveux, est-ce que vous savez aussi, bon, dans notre civilisation occidentale, en Occident, ça paraît tout à fait banal. Mais vous savez qu'il y a des races pour lesquelles la longueur de cheveux n'est pas si évidente que ça. En Afrique, par exemple, dans beaucoup de tribus africaines, distinguer la longueur de chevelure entre l'homme et la femme, c'est pas si évident que ça.
Surtout pour nous. Hein.
Alors, ici en Occident, c'est vrai qu'on voit des femmes avec des cheveux qui arrivent très 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 bas. Hein. Mais c'est pas dans toutes les races pareil. Bon, c'est vrai que les jeunes filles africaines maintenant ont ce qu'on appelle des rajouts, c'est-à-dire des rajouts. C'est pas leurs propres cheveux, hein, c'est des rajouts. Ce sont des rajouts. Mais alors, la longueur des cheveux, c'est combien? 4 cm, 10 cm, 20 cm, c'est quoi les cheveux longs? C'est quoi? Il y a une difficulté déjà pour définir le mot longueur. Alors donc, ce n'est pas la première interprétation. Alors il y en a qui ont dit, non, il s'agit ici des femmes qui avaient les cheveux défaits, qui avaient les cheveux décoiffés, qui avaient les cheveux en désordre, et donc qui rappelaient les cultes païens. C'est possible. Et puis il y en a d'autres qui ont dit, non, c'est pas ça du tout. Ce sont les femmes, bon, à l'époque c'était bien une femme respectable et quelque chose sur la tête, c'est des femmes qui enlevaient volontairement ce qu'elles auraient dû mettre sur la tête, et donc pour marquer leur liberté en Jésus-Christ. Bon, ça c'est pas bon, parce que c'est un mauvais usage de la liberté en Christ. Bref, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit ici. Donc, alors, je vous propose qu'on s'arrête là, parce qu'on a dépassé déjà l'heure. Mais vous voyez déjà, c'est pas si évident que ça. Problème de traduction. Problème de compréhension, parce que les coutumes, on ne sait pas exactement ce qu'elles étaient. Problème de Corinthe, qui était une église absolument à ne pas imiter, justement. Dans beaucoup de domaines, il ne faut pas imiter l'église de Corinthe. Ah. Tout ceci fait que... Voilà. Mais ne nous divisons surtout pas pour une question de voile. On va voir. Et j'espérais arriver au moins jusqu'à ce point-là, mais je me rends compte que je ne suis pas arrivé. C'est qu'il y a, en tout cas, derrière toute cette histoire de longueur de cheveux, il y a quelque chose de beaucoup plus important qui se cache derrière tout ça. Et on le verra la prochaine fois. Donc on va s'arrêter là, si quelqu'un veut prier.
Oui Seigneur, nous voulons te remercier, te dire merci pour ta parole. Merci également Seigneur pour ces enseignements. Tu vois combien il peut être compliqué ta parole à comprendre, mais accorde-nous ta grâce et être humble Seigneur en la lisant, à ne compter que sur toi, en ne s'appuyant que sur toi, afin que Seigneur nous puissions comprendre le sens que tu aimerais donner, Seigneur, à cette parole, afin que nous puissions l'appliquer. Et accorde-nous la grâce aussi d'être, Seigneur, ô combien humble et patient envers celles et ceux qui l'interprètent d'une autre manière. Accorde-nous la grâce de leur faire comprendre également cette pensée-là que tu nous mets à cœur, afin que nous puissions, Seigneur, tous ensemble, Seigneur, la comprendre telle que toi tu le désires. Merci de conduire toutes choses pour la prochaine fois et de nous garder pour le retour au nom de Christ et Jésus. Amen.
Amen. Amen.